Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se dispute avec toujours une actualité particulièrement lourde ce soir. Face à face, en direct avec nous aujourd'hui, Gabriel Cluzel, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. Philippe Guibert est là également, bonsoir.
Bonsoir Louis.
Bienvenue également. Le tribunal administratif de Paris a levé hier soir l'interdiction préfectorale d'une manifestation pro-palestinienne déjà en cours, place de la République à Paris, ce qui pose la question, faut-il autoriser les manifestations pro-Palestine? Vous allez répondre dans quelques instants, surtout dans le contexte international que nous connaissons. Mais d'abord, les détails avec Mathilde Ibanez.
Allahu Akbar, voilà ce qui a été entendu hier, place de la République à Paris, où près de 4000 personnes se sont réunies pour s'exprimer. Des mots qui n'ont pas leur place pour le ministre de la Justice.
Allahu Akbar, c'est ce que l'on a entendu de la bouche de l'assaillant qui a égorgé le professeur d'Arras.
Une foule réunie après l'appel de l'association CAPJO Euro-Palestine et du nouveau parti anticapitaliste. Dans le cortège, des slogans anti-Israël et anti-Macron ont été entendus.
Israël, Macron.
D'autres en faveur des Gazaouis. Un rassemblement d'abord interdit qui a pu avoir lieu après la levée de l'interdiction de la préfecture par le tribunal administratif. La foule a été dispersée par les forces de l'ordre et s'est terminée en manifestation sauvage dans la capitale.
Et j'ajoute qu'aujourd'hui, à Strasbourg, une manifestation de ce type avec 150 personnes a eu lieu, sans incident particulier, ce qui n'avait pas été le cas dans la ville alsacienne il y a quelques jours maintenant. Pour ce qui concerne celle de la place de la République à Paris, Gabriel Cluzel, interdire les manifestations, est-ce que cela veut dire que c'est museler la liberté d'expression et que c'est pour cette raison, d'ailleurs, que le tribunal administratif a levé l'interdiction en cours ?
Je ne sais pas s'il faut interdire ou pas interdire. Du reste, il y a quelques jours, la manifestation était interdite et ça ne l'a pas empêché de se produire. On pourrait même dire que l'interdire pourrait être contre-productif parce que pourrait conduire à une forme de victimisation. Mais ce qui me choque surtout, c'est que déjà, ce n'est pas une manifestation pour la Palestine. C'est pas vrai. Sinon, on aurait crié « Vive la Palestine !» et pas « Allah Akbar !» Donc la Palestine n'est qu'un prétexte en réalité. Mais ce qui me choque surtout, c'est qu'il y a eu 4000 personnes à Paris capables de se réunir le jour du l'enterrement d'un prof de lettres assassiné au cri de Allah Akbar. Ces 4000 personnes ont eu l'indécence de se retrouver et de crier à Allah Akbar. Allah Akbar qui n'est pas un cri neutre, hein, c'est le préalable et la justification, ce qui donne du cœur à l'ouvrage aux terroristes et sa signature, hein, pas seulement pour ce professeur. Donc c'est vrai que cela me paraît proprement incroyable, je dirais, et profondément choquant. C'est surtout cela qui m'a frappé hier.
Parmi les cris, il y avait également Israël, on pouvait entendre Israël assassin et Macron complice. Est-ce que cela veut dire, Philippe Guibert, que cette manifestation ou ces manifestations pro-Palestine sont avant toute chose des manifestations anti-Israël ?
Oui, je pense que c'est la bonne définition de ces manifestations. Moi, c'est une manifestation qui m'a blessé d'entendre place de la République. Nous sommes dans une République laïque. Un lieu où, en 2015, le 11 janvier 2015, moi, j'étais parmi les quelques millions de manifestants qui sont allés là pour défendre une certaine idée de la France et de la République et de la liberté d'expression, d'entendre une manifestation qui, en effet, comme vous le soulignez et comme Gabriel l'a dit, n'avait pas l'air d'avoir pour objectif principal de défendre les Palestiniens, mais d'être anti-Israël et d'avoir une dimension religieuse assez évidente. Tout ça, ça m'a blessé, ça m'a choqué. Je me suis dit que c'était... pour la République française, c'était un échec. C'était une sorte de défaite. Alors, Est-ce qu'on doit interdire tout ce qu'on trouve scandaleux? Il faut rester dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que, en fait, le tribunal administratif a appliqué la décision qu'avait prise auparavant le Conseil d'État. Le Conseil d'État avait dit on ne peut pas avoir une interdiction générale de manifester sur ce sujet-là. Le critère, c'est le trouble à l'ordre public. Et les manifestants sont suffisamment malins pour échapper à ce qui relèverait du délit de des limites qui sont données à la liberté d'expression. Ils ne vont pas crier à mort les juifs et ils ne vont pas crier d'autres slogans de ce type. Donc je trouve que des manifestations pour les Palestiniens ont toute leur place. C'est extrêmement difficile de les interdire parce que on risque de se faire l'État risque d'être contredit par les tribunaux.
Même si on entend Al-Akbar.
Oui, mais vous pouvez pas. Moi, ça me choque profondément en tant que républicain laïque et en tant que Français, et je trouve que c'est inadmissible. Je pense qu'on doit faire à ces manifestants un procès intellectuel, idéologique, politique. Mm-hmm. Mais je suis pas sûr que sur le plan juridique, ça puisse tenir. Et que n'oubliez pas qu'à l'Akbar, c'est le cri des terroristes, effectivement, des terroristes islamistes. Enfin, tout Moudzine termine son chant d'appel à la prière par Allah Akbar. Donc, c'est la signification profonde est purement, et d'abord et avant tout, religieuse.
Oui, mais
c'était une manifestation pro-musulman, pro-islam et anti-Israël.
Est-ce que cela veut dire, Gabriel Cluzel, que la majorité des musulmans en France cautionnent ces manifs si Allah Akbar qui est prononcé? Est-ce que c'est au nom de l'islam? On n'a sans doute pas la réponse, mais la tendance serait plutôt non. Et quelle influence ont ces manifestations?
Non, mais la première chose que l'on peut dire, c'est qu'il y a une forme d'ironie tragique, c'est que quand quelqu'un crie « Allah Akbar » dans une rue à Paris, ou dans un lieu public, ou dans un bus, tout le monde s'affole et prend ça pour le préalable d'un attentat terroriste. Là, il y avait 4000 personnes, donc on a quand même du mal à trouver ça négligeable. Par ailleurs, « Allah Akbar », moi je veux bien que ce soit une prière, mais à ce moment-là, que chacun la fasse en son fort intérieur, puisqu'aujourd'hui, on sait la signification que cela revêt. Par ailleurs, vous parlez des musulmans, c'est vrai qu'on aimerait voir les musulmans dans la rue qui ne cautionnent pas le Hamas, qui ne cautionnent pas ce genre de manifestations, qui sont blessés par et choqués, horriblement choqués comme tous les Français par l'assassinat du professeur. On aimerait les voir dans la rue avec des pancartes « Not in my name ». Vous savez, on en voit parfois au cours de ces dernières dizaines d'années. On a vu ce slogan sortir pour telle ou telle cause. Et malheureusement, on ne les voit pas. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit des manifestations de ce type. En revanche, moi, je ne vois pas de manifestation, par exemple, pour dire cela suffit, pas seulement des musulmans, des Français dans leur ensemble, d'ailleurs, après l'assassinat du professeur.
Pourquoi n'y a-t-il pas de manifestation pro-israélienne?
Écoutez, il y en a des manifestations.
À l'inverse des manifestations.
Il y a des manifestations pro-israéliennes, mais pour autant que j'ai pu en juger, il y était chanté la Marseillaise, qui n'est pas.
En tout cas, elles n'ont pas l'impact médiatique des manifestations pro-palestiniennes.
Mais vous reconnaîtrez avec moi que pourquoi cette manifestation a eu un impact médiatique très fort? Parce qu'elle inquiète. Elle inquiète légitimement. Écoutez, avoir 4000 personnes qui crient à l'Akbar connaissant la signification aujourd'hui de ce cri, évidemment, cela ne peut pas laisser indifférent. Je rappelle que le même jour, alors peut-être que nous allons avoir un point de désaccord avec Philippe Guibert, puisque l'émission s'appelle « Ça se dispute », le même jour, le Conseil d'État, et j'ai trouvé ça assez symbolique, sur l'île de Ré, décidait qu'il fallait déboulonner la Vierge de l'île de Ré. Alors, visiblement, la Vierge dérange le Conseil d'État. Pourtant, elle est très silencieuse et pacifique. Mais les manifestations au cri de Allah Akbar ne dérangent pas le tribunal administratif de Paris.
Votre sentiment, Philippe Guibert, il y a peut-être un aspect ostentatoire qui a été relevé par la justice. Allah Akbar, dans une manifestation, les mots s'évaporent.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était ostentatoire, je crois qu'effectivement, c'était très ostentatoire. Le problème, c'est qu'on ne peut pas demander aux tribunaux et autres conseils d'État de réécrire la loi et de l'adapter à nos sentiments. Donc vous prenez une comparaison, puisqu'on dit que c'est une émission, ça se dispute, donc ayons un point de désaccord. Vous prenez des situations qui n'ont rigoureusement rien à voir. puisque vous comparez l'île Dorée ou d'autres endroits où il y a le patrimoine post-1905, de la loi de 1905, ne doit pas être dans l'espace public. Et donc les juristes des tribunaux administratifs ou du Conseil d'État ne font qu'appliquer cette loi. Là, on est dans un autre droit qui n'est pas le droit de la laïcité, qui est le droit de la manifestation.
Enfin, Allah Akbar, ce n'est pas très laïque.
Non, c'est ce que je vous ai remarqué, que j'ai commencé par ça, et que ça me blessait, et que je trouve ça profondément choquant. Et je suis parfaitement d'accord avec vous sur un point, c'est que les croyances religieuses sont extrêmement respectables, mais qu'elles doivent s'exprimer dans les lieux de culte, ou dans l'intimité, ou, mais certainement pas dans une manifestation, et c'est profondément choquant. Sur ce point, on est d'accord.
Ah bon ? Oui.
Mais néanmoins, on ne peut pas demander aux juristes de tordre la loi. Et donc, encore une fois, cette manifestation est choquante, mais quels sont les motifs qui seraient valables pour l'interdire ? Or, le motif pour interdire une manif, c'est l'ordre public, la menace sur l'ordre public. Il n'y a pas eu dehors avec les policiers, je crois.
En effet.
Il n'y a pas eu de bris de vitrine, d'appartements attaqués, de quoi que ce soit. Donc, les juristes et les juges ne peuvent pas modifier la loi par eux-mêmes. Après, ça n'empêche pas, encore une fois, de dire tout le mal qu'on pense de cette manifestation.
Un petit mot, Gabriel Cluzel, encore, avant d'enchaîner sur notre sujet.
Il n'y a pas de bris de glace, mais convenez que, par exemple, pour les familles des victimes de ceux qui ont été assassinés au cri de Allah Akbar,
c'est profondément
entendre
choquant.
Ces 4000 personnes crier ainsi, place de la République, c'est extrêmement violent. Par ailleurs, vous dites que les deux cas ne sont pas comparables. Ce que je trouve symbolique, c'est la concomitance des dates. Vous allez me dire que c'est un hasard, mais le hasard, parfois, est assez emblématique, et c'est vrai qu'on a une laïcité qui est extrêmement pointilleuse, vétilleuse, sourcilleuse avec la religion catholique, et en revanche, beaucoup moins avec la visibilité grandissante de l'islam dans notre pays.
C'est l'application de la loi telle qu'elle existe. Après, on peut proposer de modifier la loi. Mais on ne peut pas demander aux juges de modifier la loi, ils doivent l'appliquer. Donc là-dessus, ils sont dans leur fonction et dans leur vocation. Mais on est bien d'accord, cette manifestation était honteuse, disons les choses.
Elle était
parfaitement honteuse.
En creux, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'elle faisait aussi l'apologie du terrorisme, puisqu'on distribue les bons et les mauvais points dans ce cadre-là, aujourd'hui, depuis quelques jours en tout cas. C'est le cas notamment pour le secrétaire général de la CGT du Nord, qui a été placé en garde à vue aujourd'hui, pour apologie du terrorisme, d'après le syndicat. Il lui reprochait un communiqué appelant à la paix en Palestine, et un rassemblement de protestation s'est tenu devant le commissariat de Lille aujourd'hui. Une autre syndicaliste l'accompagne également. Juste votre réaction, Philippe Guibert, sur l'apologie du terrorisme, c'est une accusation grave tout de même.
C'est gravissime. Moi, j'ai lu attentivement ce communiqué qui appelle des commentaires assez semblables à ceux qu'on vient de faire. Il n'y a pas de dimension religieuse dans le communiqué de la CGT. Mais qui est une façon détournée, non pas de faire l'apologie du terrorisme, mais de dire bah, finalement ça se comprend. Hein, ça se comprend que le Hamas soit allé tuer de manière atroce 1400 personnes en Israël. Ils ne le disent pas comme ça, mais au fond ils disent que c'est de la faute d'Israël si ça s'est arrivé. Donc on peut être en complet désaccord avec eux, on peut critiquer politiquement, idéologiquement, intellectuellement tout leur raisonnement. De là, les accuser d'apologie du terrorisme, ça sera très difficile. Ça sera très difficile de trouver dans leur communiqué une phrase qui est vraiment une apologie du terrorisme. Donc, soyons clairs, ce communiqué est extrêmement critiquable. Et là encore, je redis, il est même honteux pour la CGT. Et j'attends que Sophie Binet, mais je crains d'être déçu, j'attends que Sophie Binet vraiment condamne ce communiqué. Donc, sur le plan politique et idéologique, il n'y a aucune ambiguïté. Ce communiqué est assez lamentable. Mais encore une fois, on ne peut pas interdire toutes les opinions, même si on les trouve lamentables. On ne peut pas interdire toutes les opinions. On est quand même dans une démocratie et il faut quand même en garder quelques principes.
Attention tout de même, apologie du terrorisme, cela se distribue de plus en plus ces derniers temps.
C'est le cas, un peu trop,
notamment pour Youssef Attal, un joueur de football dont on va parler dans quelques instants, international algérien, joueur de Nice, qui a retweeté puis a retiré ensuite ce document qui était le prêche d'un Palestinien qui vantait les mérites du Hamas après qu'il y ait eu ces actes terroristes sur le sol israélien le 7 octobre dernier. On en vient à l'affaire Benzema, bien sûr, avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui accuse le Ballon d'Or, Karim Benzema, d'être en lien notoire, je cite le ministre de l'Intérieur, avec les frères musulmans et de tweeter de manière sélective à travers cette affaire et avec l'ex-international français. On se demande si le football a choisi son camp, parce que ce n'est pas le seul exemple. Il y a eu ce tweet, en effet, de Karim Benzema, qui joue en Arabie Saoudite désormais dimanche dernier, et c'est l'escalade depuis quelques jours maintenant. Écoutez ce que répondent d'abord deux représentantes politiques, deux femmes volontairement, vous allez le voir, deux stades, deux ambiances, Marine Le Pen et Sandrine Rousseau.
Ah oui.
Ce qui est sûr, c'est que M. Benzema a manifestement une complaisance pour l'islamisme le plus radical. Voilà, que certains pourraient appeler le fondamentalisme islamiste. Point. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas décrété que cette idéologie est interdite, ce que nous souhaitons
ce que vous
et ce que nous réclamons depuis des années, alors... Monsieur Darmanin n'est pas fondé à venir opérer
vous demanderiez,
ce reproche,
ou en vous, tout cas, Marine Le Pen, le une fait, interdiction des frères
ou en tout cas,
musulmans.
Il le fait pour cacher son absence d'action, précisément.
Ce qui me choque, c'est que le ministre de l'Intérieur, alors que nous sommes dans une situation qui, par bien des aspects, est explosive, et par bien des aspects, doit nécessiter l'attention précise du ministre de l'Intérieur, eh bien, qu'il s'amuse à regarder les tweets d'un footballeur. Enfin, je pense qu'on n'est pas du tout au niveau, mais pas du tout, pas du tout. À quel moment on se rend compte qu'on est en train de complètement de se ridiculiser, là, en fait?
Il dit que ça devrait interpeller tout le monde.
Mais
qu'il
non,
n'est pas
non,
tweeté,
non,
par
là,
exemple,
footballeur, c'est un
après
footballeur.
L'assassinat du professeur de français d'Arras. Il dit que s'il tweet pour pleurer Dominique Bernard, ben à ce moment-là, il retirera ses propos.
Non, mais c'est... Là, on... C'est un footballeur. Benzema est un footballeur.
20 millions d'abonnés sur Twitter.
Oui, très bien, c'est un footballeur. Enfin, on arrête, enfin. Le ministre de l'Intérieur, il n'a rien d'autre à faire que de lire les tweets de Benzema.
Les accusations contre Karim Benzema vont-elles trop loin? Parce qu'on est quand même dans un débat et un sujet très grave, qui est la guerre au Proche-Orient, avec des morts, des milliers de morts, d'ailleurs, côté palestinien et côté israélien, bien évidemment. Et donc on donne audience et une résonance très importante à un joueur de football, avec tout le respect qu'on lui doit, un très bon joueur de football d'ailleurs, parce qu'il a tweeté plutôt en faveur de la Palestine, mais qu'il n'a pas fait de message concernant les morts en Israël ou la mort du professeur d'Arras.
Non, mais on peut juger que Gérald Darmanin profite un peu de l'occasion pour faire une espèce d'opération de diversion. C'est possible, c'est peut-être stratégique. Mais il n'empêche que la réaction de Sandrine Rousseau consistant à dire « Oh là là, ce n'est qu'un footballeur », comme si c'était un patineur à glace tout à fait anonyme et que donc son avis avait très peu d'importance.
C'est vrai que le patinage à glace a moins d'impact.
Vous avez remarqué. Donc c'est quand même d'une hypocrisie folle, pour ne pas dire autre chose. Évidemment que Karim Benzema, avec tous ses millions de followers divers et variés sur ses divers comptes, n'est pas, voilà, exactement, 20 millions. L'avis de Karim Benzema, évidemment, porte éminemment. Et c'est très ennuyeux que ce personnage qui a été, avec son talent, évidemment, il a un talent de footballeur indéniable, mais qui a été développé grâce à la France qui en a fait ce qu'il est aujourd'hui, eh bien, loin de mettre son aura au service de la France, la met au service d'un islam radical. Qui est pas tant, hein, frère musulman ou pas frère musulman, il suffit de suivre Karim Benzema sur les réseaux sociaux pour voir ses options sur le sujet. Donc évidemment que ce n'est pas neutre, la vie de Karim Benzema, mais on peut se demander, mais quelle sorte de héros a-t-on donné à nos enfants? C'est bien dommage qu'on suive plus Karim Benzema que nos jeunes soldats qui tombent au Mali, le jeune pompier qui est mort encore récemment, je pense à lui, pendant les émeutes. Non, ce n'est pas cela qu'on donne un modèle, ce sont ces joueurs de football que nous avons créés de toutes pièces, ce sont des créatures qui aujourd'hui nous échappent parce que ce qu'elles prônent est suivi par des millions de jeunes en banlieue. Je repense aussi au cas de, c'est pas de l'islamisme cette fois, mais de Mbappé qui avait dit « j'ai mal à ma France » en parlant de Naël, ce petit ange parti trop tôt, dans un contexte d'émeute. C'était vraiment évidemment dramatique. Donc tout cela porte à dire que non, l'avis d'un footballeur, de ce footballeur, est loin d'être neutre.
Et en effet, d'autres footballeurs, notamment lors de l'affaire de la Baïa, avaient pris parti des joueurs de l'équipe de France, comme Jules Koundé notamment, qui avait été plutôt anti-réglementation autour de la Baïa. On en revient à Karim Benzema. Finalement, quelle est son influence dans le conflit au Proche-Orient? Karim Benzema, c'est pas lui qui va régler le problème, et conflit, ce n'est pas son tweet qui va changer la face du monde.
Non. Et c'est vrai qu'il a une audience particulière. Tout le monde n'a pas 20 millions de followers. Et donc, Quand bien même est-il un footballeur, sa parole a un certain poids. Alors là où je rejoins...
Vous pensez qu'il est manipulé ? Des propos prosélytes et que ce tweet-là, il le fait à dessein ?
Manipulé, je crois, je ne pense pas.
S'il est proche des frères musulmans, si son tweet a du sens, pour qu'il ait du poids également...
En fait, quel est le sens de son tweet ? Effectivement, ce qu'on peut surtout lui reprocher, c'est de ne pas avoir eu les mêmes tweets pour les Israéliens massacrés et n'avoir pas une mot non plus pour le professeur d'Arras assassiné. On peut lui l'accuser de deux poids, deux mesures. Et donc, il se préoccupe des Palestiniens de Gaza, pourquoi pas. Enfin, je pense qu'il n'est pas le seul à s'en préoccuper. Et d'ailleurs, il est bon qu'il ne soit pas le seul. Cette préoccupation pour les civils palestiniens, elle est partagée par beaucoup de monde dans une situation particulièrement tragique. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est un deux poids, deux mesures. Donc sa parole a un certain poids, incontestablement. Là où, à mon sens, ça devient un peu délirant, c'est quand on a entendu des personnalités politiques commencer à demander sa déchéance de nationalité. Je trouve que là, on est un peu chez les fous. Et je pense que Gérald Darmanin aurait pu se contenter de critiquer son tweet sans aller jusqu'à une accusation qui est un petit peu ambigu, parce que qu'est-ce qu'il entend ? Est-ce qu'il est proche d'une sensibilité frères musulmans ou est-ce qu'il est membre des frères musulmans ? Lien notoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Je pense que Darmanin est allé un peu trop loin, qu'il s'est laissé emporter par son propre agacement, que je peux comprendre d'ailleurs par ailleurs, mais je pense qu'il est allé un petit peu trop loin et que cette affaire Benzema ne mérite pas tous ces commentaires.
Oui, d'autant que, peut-on dire, Gabriel Cluzel, il y a très régulièrement, on l'a dit rétrospectivement, des tweets de footballeurs qui viennent saupoudrer l'actualité quand ils le souhaitent, évidemment. Est-ce qu'on peut dire qu'Éric Cantona est proche des frères musulmans ? Il a fait un tweet quasi similaire, on peut le voir succinctement, l'ancien joueur de foot de Manchester, de l'équipe de France également, qui fait un tweet pro-palestinien, en disant qu'il défend la cause palestinienne et qu'en effet, Gabriel Cluzel dit ce n'est pas être antisémite, par exemple, que de défendre la cause palestinienne. Voilà ce que dit Eric Cantona, un autre footballeur, ancien footballeur.
Alors déjà, Eric Cantona n'a plus tout à fait, c'est pas offense, je lui fais pas offense, mais n'a plus tout à fait le même aura que Karim Benzema. De fait, on peut défendre les enfants palestiniens qui sont les victimes collatérales, tout le monde peut le faire, mais néanmoins, ne défendre que cela et ne pas défendre les autres, ignorer les autres victimes, quelles qu'elles soient. Évidemment, ça ne laisse pas de doute sur les options qui sont prises. En fait, Karim Benzema, c'est un peu un récidiviste, entre guillemets. Vous savez, Karim Benzema, lui, c'est lui qui ne voulait pas chanter la Marseillaise, vous vous souvenez ? C'est lui, il est franco-algérien, il disait « Oh, moi, mon cœur est à Alger, c'est juste pour le sport. »
Il a toujours été assez clivant dans son histoire avec l'équipe de France.
Exactement.
Il s'est longtemps battu pour jouer avec l'équipe de France.
Il avait reproché à Didier Deschamps de ne pas l'avoir sélectionné parce qu'il était raciste.
Non, parce que d'avoir cédé à une partie
raciste de la France.
Avoir cédé, voilà. Par, oui,
enfin,
bah,
en tout cas, on était sur un débat
précis,
raciste.
Soyons précis, mais néanmoins, le cœur du sujet, c'était cela. Bref. Donc, si vous voulez, c'est pas sorti de nulle part. Donc, il est assez légitime que l'on s'interroge sur l'influence de cet homme, c'est évident. Donc, ça ne me choque pas que les politiques s'en mêlent, tout simplement. Ça me paraît assez légitime. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'il n'y a pas un seul de ces footballeurs réputés qui aujourd'hui disent clairement je dois tout à la France, ou alors je ne le connais pas, peut-être que je ne m'intéresse pas à ce sport.
C'est beaucoup de silence.
Mbappé l'a souvent dit.
Le silence, oui, mais
Mbappé, sur Naël, vous me reconnaîtrez qu'il n'a pas été. Question, c'est vrai, il l'avait dit par le passé.
Sur le Proche-Orient, aucun footballeur, en tout cas emblématique, n'a pris la parole à part Benzema. Et en effet, le silence est peut-être déjà une prise d'opposition.
Et sur les professeurs assassinés, c'est quand même des jeunes qui les assassinent. Ouais. Vous ne croyez pas que la parole des footballeurs pourra
avoir. Une petite pause. On marque une pause. On continue à débattre encore une fois le flash dans quelques instants et on se retrouve avec Gabriel Cluzel et Philippe Guibert dans Ça se dispute, la deuxième partie, à tout de suite. On se retrouve avec Gabriel Cluzel et Philippe Guibert dans Ça se dispute, la deuxième partie, mais d'abord un point sur l'actualité. Adrien Spiteri, bonsoir.
Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. Le Hamas avait annoncé leur libération aujourd'hui. Deux otages américaines sont arrivées en Israël ce vendredi soir. Cette mère et sa fille étaient détenues par les terroristes à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Des membres de leur famille les attendent sur place. L'aide humanitaire devrait entrer demain dans la bande de Gaza en état de siège. À la frontière égyptienne, des dizaines de camions attendent depuis plusieurs jours. Pour faciliter ce passage, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu sur place aujourd'hui. Cette aide humanitaire comprend notamment de la nourriture et des médicaments pour les civils. Et puis c'est l'une des conséquences de la menace terroriste en France. Les fausses alertes à la bombe se multiplient sur le territoire. 18 interpellations ont eu lieu ces derniers jours. Le garde des Sceaux annonce des condamnations à venir. Plusieurs aéroports ainsi que le château de Versailles ont été évacués aujourd'hui.
Merci Adrien Spiteri. Prochain point sur l'actualité, 22h sur l'antenne de CNews. Deuxième partie de Ça se dispute avec Philippe Guibert et Gabriel Cluzel. Avant de passer sur le dialogue possible ou impossible entre Israël et Palestine, un mot de conclusion tout de même sur notre dossier Benzema, Philippe Guibert.
Oui, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ce sont des stars les footballeurs et ils s'adressent à énormément de monde. Et notamment une jeunesse qui est peu politisée, qui ne participe pas toujours aux élections, je pense dans les quartiers. Et donc en ce sens, ils ont une influence, donc ils ont une responsabilité. Donc on a le droit de les critiquer et ce n'est pas un non-sujet comme le suggérait Sandrine Rousseau, même s'il ne faut pas aller dans le délire de l'accuser de tous les maux et de vouloir le déchoir de la nationalité, à mon sens.
Mais leur audience, en effet, si elle
leur
est très nombreuse,
a une influence.
Elle est nombreuse, mais sur une certaine catégorie, une certaine partie de la France, en effet. Voilà pourquoi le sujet est important et intéressant. Israël-Palestine, dialogue impossible, on met toujours un point d'interrogation, cela fait 75 ans que cela dure. Nicolas Sarkozy, l'ancien président, estime que cela passera par le dialogue et uniquement par le dialogue, comme l'ont fait d'ailleurs les Français et les Allemands après la guerre de 40. Il fait cette comparaison. Écoutez cette intervention de Nicolas Sarkozy, particulièrement intéressante.
Ce qu'ont été capables de faire les Français, les Allemands, après tant de drames, parce qu'entre Louis XIV et 1945, on a été en guerre quasiment tous les 30 ans. On parle des deux conflits mondiaux, on oublie celui de 1870, qui était aussi un conflit mondial. Des génies, vous m'entendez, des génies, ont imposé la réconciliation franco-allemande. Moi, j'ai été élevé par mon grand-père, que j'adorais. Et je sais comment on appelait les Allemands chez moi. C'était pas flatteur. Mais quand ils ont fait la réconciliation, mon grand-père l'a accepté. Et depuis 1945, on est en paix. Ce qu'on a été capable de faire, il faudra le faire. Faudra que les Ukrainiens et les Russes se parlent. Et il faudra que les Palestiniens et les Israéliens se parlent. Je sais que dire cela aujourd'hui, ça peut choquer. C'est la seule voie raisonnable.
La comparaison est-elle pertinente déjà entre la guerre de 40 français et allemands et aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens, Gabriel Cluzel? Et en effet, est-ce que le dialogue est possible et est-ce que c'est la seule issue?
Je remarque que c'est plus facile de parler de la paix et de la facilité qu'on pourrait l'obtenir quand on n'est plus aux affaires. Parce que je ne veux pas tacler Nicolas Sarkozy, mais il n'a pas aidé nécessairement à la paix dans ce coin, enfin au sens large du monde, parce que sa déstabilisation de la Libye et par voie de conséquence aussi chez nous, l'arrivée de vagues migratoires, etc., n'a pas contribué à la paix dans le monde. Donc c'est plus facile de faire des vœux pieux quand on n'est plus aux affaires. Le problème, c'est que pour se réconcilier, il faut être deux. Et c'est difficile de se réconcilier avec quelqu'un qui vient de vous égorger vos enfants et vos grands-mères. C'est une évidence. Donc la réconciliation, oui, évidemment, au bout du chemin. Mais aujourd'hui, on peut concevoir que ce soit difficile de l'envisager. Ce que l'on peut déplorer, c'est que non seulement... et c'est en cela que la comparaison peut être mutatis mutandis pertinente. C'est que de la même façon que le conflit franco-allemand a pris des dimensions mondiales, nous avons importé le conflit israélo-palestinien sur notre sol. Il est aussi aujourd'hui vécu comme un vecteur d'identité par des individus qui peuvent être du reste très loin de la Palestine, sur tous les plans, y compris géographiques. Parce que je pense que entre la Tchétchénie et la Palestine, il y a la religion. région, mais il n'y a pas vraiment une de la défense du même territoire, pour revenir au territoire, au terroriste qui a assassiné le professeur d'Arras. En cela, la comparaison peut être pertinente, mais c'est vrai que aujourd'hui, malheureusement, ça paraît compliqué, et c'est vrai que il va y avoir probablement de nombreuses victimes. On peut le déplorer, hein. Je signale qu'aujourd'hui, l'église de Porphyre, l'église grecque-orthodoxe de Porphyre, a été touchée par un bombardement.
Et l'armée israélienne.
Oui, voilà, il y avait l'armée, c'est reconnu par l'armée israélienne. Il y avait visiblement un point stratégique du Hamas à côté. Il y a eu des morts, de la désolation, etc. Donc c'est profondément triste, mais c'est vrai que c'est sans doute pas pour demain.
Mais dans une éventuelle négociation, est-ce que c'est le Hamas l'interlocuteur? Est-ce que le Hamas est reconnu comme pouvant discuter avec Israël, Philippe Guibert?
Non, tout le problème est de trouver les interlocuteurs. Ah oui. Je voudrais juste rappeler que Rabin, un premier ministre israélien, qui s'était engagé dans un processus de paix, a été assassiné par un extrémiste juif, par un extrémiste israélien, et que beaucoup de leaders ou de personnalités palestiniennes modérées ont été assassinés par des mouvances palestiniennes, soit nationalistes, soit islamistes. Georges Bensoussan le raconte régulièrement dans ses interventions. Et donc on a un problème, c'est que pour qu'il y ait une négociation, il a raison sur le fond, dans l'absolu, Nicolas Sarkozy, il faut trouver effectivement les interlocuteurs. Ça ne peut pas être le Hamas, évidemment, après ce qui s'est passé. Le problème, c'est que l'autorité palestinienne, qui est l'autre mouvement qui pourrait représenter les Mahmoud Palestiniens, Abbas, a été complètement discrédité auprès même des Palestiniens de Cisjordanie. Donc du côté palestinien, il y a peu d'interlocuteurs. Soit ils ne sont pas du tout dans une négociation, ce qui est le cas du Hamas, à l'évidence. Soit pour négocier, Abbas manque d'autorité, de légitimité. Du côté israélien, il y a aussi du chemin à faire. Il y aura du chemin à faire parce que le gouvernement qui était en place, il a un peu changé en s'élargissant après le 7 octobre, mais le gouvernement qui a dirigé le pays dans les derniers mois, depuis les dernières élections, est un gouvernement qui tournait le dos à toute négociation avec les Palestiniens, qui n'a pas découragé certains colons de mener des opérations douteuses en Cisjordanie, qui parfois même les a soutenus à travers certains ministres qui les représentaient, ces colons au gouvernement. Donc, et Israël était un pays profondément divisé avant la tragédie du 7 octobre. Et donc il faut aussi que les Israéliens trouvent aussi un leader. Monsieur Netanyahou est en chute libre dans les sondages et on comprend pourquoi.
Mahmoud Abbas ne veut pas discuter avec Netanyahou. Il avait vu d'ailleurs un ministre pour la première fois depuis 2014, un ministre Benny Gantz qui était chargé de la sécurité. C'était pas arrivé depuis donc plusieurs années, mais il ne veut pas discuter avec Netanyahou.
Absolument, il faudra trouver d'autres interlocuteurs. Il faut que chaque camp trouve des leaders qui aient cette intelligence politique, qui soient des vrais chefs, des chefs au sens qu'ils soient en capacité de protéger leur peuple et de leur assurer quelque chose qui ressemble à un avenir. La solution des deux États, c'est la position française depuis le général de Gaulle, constante, tout président confondu. Elle est intellectuellement très satisfaisante. Politiquement, pour l'instant, elle n'a pas le début de commencement d'une
loi d'espoir. Ça semble insoluble.
Oui, puisqu'il s'est passé le week-end dernier, a mis un terme à court terme, moyen terme, à toute perspective de...
Même des discussions avec l'Arabie Saoudite.
Même des discussions, mais ça a profondément bousculé tout l'équilibre de cette région-là, puisque les pays qui étaient autour d'Israël partaient du postulat qu'Israël était invincible et qu'il fallait donc, d'une façon ou d'une autre, arriver à s'arranger avec eux. C'est comme ça que l'Arabie Saoudite se rapprochait d'Israël. Là, cette attaque a envoyé que le signal qu'Israël n'était pas si invincible. Donc c'est un changement de paradigme compliqué pour la région. Et de fait, les attentats avaient sans doute aussi pour objectif de mettre un terme à ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël.
Juste pour ajouter un mot, là où Nicolas Sarkozy a peut-être raison, c'est que tout le monde avait oublié le problème palestinien. Tout le monde l'avait oublié et tout le monde voulait l'oublier. Les pays arabes, Israël, nous Européens, qui n'avons plus beaucoup de poids là-bas, et même les États-Unis. Et donc on pensait que le problème était vaguement réglé, que par l'argent du Qatar, on allait vaguement apaiser Gaza et le Hamas, et puis que pour le reste, en Cisjordanie, c'était une cohabitation très difficile, mais sans solution politique. là, quand même, tout le monde prend conscience qu'il faudra un jour une solution politique. Elle n'est pas proche.
Encore un mot et oui, on enchaîne
ce
avec
que je veux dire, c'est que la réconciliation ne va pas toucher seulement Israël et la Palestine, parce que on voit que, et cela m'a beaucoup frappé, que dans les kibbutz, les gens ont été tués au cri d'Allah Akbar et pas au cri de Palestine libre. Donc c'est devenu un combat de civilisation qui nous touche aussi.
Absolument.
et dont les déflagrations vont être nombreuses. Donc la réconciliation, elle est malheureusement, apparemment, pas prête de se faire chez nous non plus.
Pour aller dans le même sens, un des drames des Palestiniens, c'est l'islamisme, et le plus radical, qui a récupéré la cause palestinienne à travers le Hamas. Et que ça, évidemment, que ça rend le conflit avec une dimension non seulement politique, mais idéologique et religieuse.
Voilà, c'est-à-dire la dimension religieuse qui entre en ligne de compte, et non plus uniquement les territoires, même si cela reste le socle de ce débat et de ce conflit. Pour terminer, les répercussions sur notre sol de toute cette situation, après la mort aussi du professeur d'Arras, et des alertes à la bombe en France qui se multiplient. Alors, ce sont de fausses alertes à la bombe, mais elles sont particulièrement embarrassantes, puisque des écoles, des aéroports, des lieux culturels sont quotidiennement évacués. C'était encore le cas aujourd'hui au château de Versailles pour la 5e fois cette semaine. C'est quand même incroyable. C'est 15 000 personnes, je crois, par jour, le château de Versailles. Que prévoit la loi contre ces fausses alertes? Explication de Godéric Hubé et de Mathilde Ibanez.
En seulement 48 heures, plus d'une cinquantaine de menaces d'attentats ont été signalées. À cause de fausses alertes à la bombe, où de nombreux aéroports ont dû être évacués. Un délit qui peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
2 ans de prison, si vous voulez, aujourd'hui, au-delà d'un an, ce n'est plus aménageable. Ça veut dire qu'on pourrait faire de la prison ferme pour un mail adressé à un aéroport, un musée, une école, en indiquant, pour s'amuser, qu'il va y avoir une bombe qui va exploser. Donc c'est pris très au sérieux.
La plupart des alertes sont faites anonymement par téléphone ou sur des sites internet comme moncommissariat.fr ou encore par mail.
Suite à tout dépôt de plainte, le service du parquet de cybercriminalité est saisi et sont utilisés tous les moyens technologiques à leur disposition, à savoir faire appel aux opérateurs téléphoniques, faire appel aux opérateurs internet pour aller rechercher à la source les adresses IP qui ont été utilisées.
Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les forces de l'ordre ont interpellé 18 personnes qui auraient fait de fausses alertes à la bombe. Comme cet été, où un couple en avait lancé une à la gare de Lille pour éviter de rater leur train. Le conjoint a été condamné à 8 mois de prison ferme et sa compagne à 12 mois de prison avec sursis.
Et parmi les personnes interpellées, beaucoup de mineurs, beaucoup de jeunes, Gabriel Cluzel. Est-ce qu'il s'agit de délinquance ? Purement de radicalisation ou tout simplement de stupidité d'adolescent, de stupidité puérile?
Alors Gérald Darmanin, non pas Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti a parlé de plaisantin. Moi je crois que c'est assez contradictoire avec l'attitude qui est adoptée, puisque si on évacue à chaque fois les bâtiments les concernés, c'est bien qu'on les prend au sérieux et qu'on ne voit pas dans ces actions l'action de plaisantin. Donc le problème c'est que ceux qui sont arrêtés pour le moment sont ceux qui se sont laissés prendre. Donc c'est un petit peu les pieds nickelés du lot, si j'ose dire. Donc de facto, ce sont plutôt les jeunes, les plus jeunes, qui s'imaginent qu'on va pas les retrouver s'ils appellent avec leur téléphone à découvert. En revanche, ceux qui utilisent des moyens plus sophistiqués, avec des VPN, enfin des appels masqués, etc. visiblement sont difficiles à débusquer, et ce sont ceux-là qui inquiètent. Il faut se rendre compte que ça peut devenir une forme de djihad du pauvre, entre guillemets, parce que ça paralyse un pays. Qui prendra le risque dans le contexte actuel de ne pas évacuer une école, par exemple? Alors on se retrouve avec des dizaines d'alertes à la bombe dans des lycées. Aujourd'hui, il y a des écoles dans le Val-de-Marne, alors là c'est les vacances, ça va, mais qui étaient en présentiel,
en distanciel.
Aujourd'hui, parce qu'on s'est dit on va arrêter de gérer les alertes à la bombe. Donc finalement, c'est nous qui allons nous retrouver confinés pendant que tous les islamistes divers et variés continueront à gambader dans notre pays. Vous voyez, la logique de l'affaire, c'est quand même assez particulier. Il y a de quoi inquiéter. Ça peut paralyser le pays, très honnêtement. Donc je pense qu'il faut éviter de prendre ça à la légère.
Oui, car le pays est obligé de respecter ce principe de précaution. Voilà, on est obligé de prendre des choses très au sérieux, surtout en ce moment, Philippe Guibert.
C'est évident, puisqu'on a tous les ministres le disent, l'exécutif le dit et le répète. La vigilance sur le terrorisme est à son niveau maximum.
Élevé,
Et on comprend bien pourquoi, dans le contexte. Et je pense aussi que ce ne sont pas que des plaisantins. Il y a sûrement une part de plaisantins. On peut être très, 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 très bête à 14 ans ou à 15 ans. On a tous connu ça. Mais je pense qu'il y a aussi une part de malveillance, de volonté de malveillance dans ces appels, vu le nombre d'appels qui ont l'air d'intervenir en ce moment. Et effectivement, les autorités ne peuvent pas faire autre chose que d'appliquer le principe de précaution. Durcir, l'histoire de l'adresse IP est intéressante dans ce que disait la dame dans le reportage. Parce qu'il y a un moment donné, il faut effectivement, dans des périodes comme ça, où tout le monde est un peu à cran, où tout le monde est angoissé, où qu'il y a des parties de la population, les Français juifs, les enseignants, entre autres, en particulier, qui vivent dans un sentiment d'insécurité tout à fait réel, qui est pas qu'un sentiment, qui est aussi une réalité. Il est évident qu'on ne peut pas jouer à ça. Et donc, je crois qu'il faut trouver des moyens technologiques de lever l'anonymat de ces appels ou de ces mails. Et donc, c'est un travail, comme l'indiquait la personne qu'on entendait, c'est un travail technologique à mener pour retrouver les adresses IP.
Je voudrais vous faire le numéro de téléphone. Et le gouvernement, enfin, les ministères, l'économie aussi, en tout cas, les ministres sont sur les dents. À l'image de Clément Beaune, le ministre des Transports, puisque plusieurs gares ont dû faire partir des trains. Il y a eu des retards de trains, effet, certains trains qui ont été annulés. Et donc, le ministre des Transports a promis la plus grande fermeté contre les personnes qui sont à l'origine de ces fausses alertes. Il dit qu'il s'agit surtout d'imbéciles. Écoutez.
Les petits malins ou les petits plaisantins qui se livrent à ce genre de jeu sont en fait de gros abrutis, voire de grands délinquants. Et nous ne laisserons rien passer sur leurs actions dans le climat que nous connaissons. Nous avons depuis mercredi eu des impacts importants dans nos aéroports. C'était mercredi 17 aéroports qui ont reçu une alerte, 15 qui ont été évacués. Dans la journée d'hier jeudi, 25 qui ont reçu une alerte, 19 qui ont fait l'objet d'une mesure d'évacuation.
Ce sont les jeunes qui sont pointés du doigt ici, Gabriel Cluzel. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire ou refaire l'éducation de la jeunesse en France, pour leur faire entendre raison aussi, parce que si ce sont des abrutis, si ce sont des idiots qui s'amusent à téléphoner tous les jours pour refermer le château de Versailles ou ne faire partir des trains ou des avions, on va pas s'en sortir.
Moi, je ne crois pas que ce soit de gros abrutis, parce que les abrutis, ça suppose qu'on n'a pas de cervelle et qu'on est idiot. Et en fait, la manœuvre n'est pas idiote, parce que à bas coût, on arrive à paralyser un pays. Puis ça, c'est un réel coup pour le coup, puisque les divers châteaux, les entrées sont payantes, les touristes viennent, trouvent porte close, les voyages doivent être remboursés, etc. Donc les forces de police sont mobilisées, donc c'est absolument pas neutre. Donc il y a un bras de levier, si vous voulez, certain, c'est compte tenu de l'effort développé à la base. Donc c'est pas idiot comme démarche si on pense sur un plan purement stratégique. Maintenant, est-ce que c'est une affaire d'éducation? Oui, moi je crois que quand on prend des jeunes mineurs, il n'y a pas que des mineurs, mais les parents devraient être sanctionnés et peut-être sanctionnés durement au portefeuille. Je vous assure que si votre fils de 14 ans fait une alerte à la bombe et que vous êtes obligé de rembourser pendant 2 ans, vous lui faites passer l'envie de faire une alerte à la bombe, je vous le garantis.
Quand je faisais allusion à l'âge tout à l'heure, Philippe Guillard voulait réagir parce qu'il semble que celui qui a fait fermer le château de Versailles aujourd'hui est un homme de 70 ans.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que non seulement c'est pas forcément des idiots, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas forcément des jeunes.
Oui, oui, oui. La plupart qui ont été interpellés sont des jeunes, mais en effet, il n'y a pas que ça.
On va pas tomber dans le jeunisme en disant que les jeunes sont formidables. Mais enfin, les personnages douteux ou dangereux ou très mauvais plaisantins, ce n'est pas qu'à 14, 15 ans. Et donc, moi, je suis pas convaincu du tout. Si les ministres ont des éléments d'information pour dire que ce sont avant tout des jeunes, ça veut dire qu'ils ont des pistes pour aller chercher. C'est les personnes qui ont fait ça. Mais effectivement, moi, je ne suis pas convaincu du tout que ce soit que des jeunes. Et je pense que ça peut se retrouver dans toutes les générations.
À qui profite le crime quand il s'agit d'autres générations ? Ils font ça pourquoi ? Pour exister ? Pour opinion politique ? Bordéliser le pays, comme certains ont tenté de le faire avec des manifestations ?
Peut-être des opinions politiques dans un certain cas. Je pense qu'il ne faut pas du tout l'exclure. Je ne pense pas que ce soit que des plaisantins, des mauvais plaisantins.
Bon, en tout cas, il n'y avait pas de plaisantins sur ce plateau. C'était très intéressant. Ouais, c'est parfait comme d'habitude.
Près de peu. Hein,
bah, attendez, c'était particulièrement élitiste, il faut le dire. Aujourd'hui, et très grand public aussi pour nos téléspectateurs. Merci Gabriel Cluzel, merci Philippe Guibert de nous avoir accompagnés. L'information continue bien sûr sur CNews avec Olivier de Kerenfleck et Soir Info. À tout de suite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.